Cette pièce à l'accordéon a été composée par le grand-père de Samuel Girard. Quand, après sa première médaille olympique de Pyeongchang en 2018, c'était l'or aux 1000 mètres. Samuel Girard a apprécié et c'est là qu'on se rend compte que la famille est très importante pour lui. Et c'est peut-être ça qui l'a éloigné un peu de son sport parce qu'aujourd'hui, Samuel Girard, 22 ans patinage de vitesse courte piste, a annoncé sa retraite à l'âge de 22 ans. Philippe Quentin est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
C'est assez incroyable. Honnêtement, j'ai lu le texte sur Podium à Radio-Canada. J'ai écouté également la conférence de presse. Et je comprends que vraiment l'environnement sportif l'a poussé loin de son sport. Est-ce que je me trompe?
Non, je pense qu'il est à la recherche d'équilibre, Samuel Girard. Il l'a très bien expliqué dans le texte, super texte d'ailleurs, là, sur le site de Radio-Canada, dans la section Podium. Il explique qu'il est à la recherche d'équilibre et moi, il y a des extraits de ce qu'il écrit qui m'ont vraiment touché. Tu sais, quand il dit, par exemple, que si on lui avait laissé la possibilité au cours des 5 dernières années d'avoir un peu plus de temps à Noël pour retourner au Saguenay, d'aller chez lui, voir sa mère et son père à la fête des mères, à la fête des pères... Il dit, il y a de grosses chances qu'en ce moment, on parlerait de mes résultats au dernier championnat du monde et non pas de ma retraite. Et il dit, c'est vraiment juste rendu un travail, ma carrière sportive. Et là, il dit une phrase, Jérémy, qui est étonnante de la part d'un athlète d'élite. Il dit, le sport est en train de devenir un peu trop sérieux, un peu trop intense. Alors, c'est sûr que ça remet en question bien des acquis sur l'idée qu'on se fait du sport d'élite, où il faut vraiment foncer tout azimut dans son activité physique. Il faut s'y consacrer à fond. Mais lui, il dit à quelque part, est-ce qu'un athlète est capable de trouver un équilibre dans tout ça? Et sa réponse, c'est non. Et il dit, ben moi, je veux un équilibre dans ma vie. Donc, j'arrête ma carrière. C'est courageux quand même.
C'est très courageux. Et il y a une autre portion du texte qui m'a marqué moi aussi beaucoup. C'est le système amateur fait en sorte que c'est difficile, quasi impossible d'avoir une vie à l'extérieur. Ouais. Donc, c'est là qu'on comprend que ce sont de jeunes adultes, très, très jeunes adultes qu'on veut entraîner pour devenir des champions olympiques, mais ça demeure de très jeunes adultes.
Oui, puis qui sont à la recherche d'une vie équilibrée. Je reprends le mot, mais c'est le mot qui revient le plus souvent, ou en tout cas avec le plus de force dans le texte. Mais Samuel Girard, je le connais pas bien, Jérémy, je l'ai rencontré une fois. Après les Jeux olympiques de Pyeongchang, j'ai eu l'occasion d'animer une soirée La Presse, je pense que c'était à l'Astral, sur la rue Sainte-Catherine, et il y avait là 4 athlètes olympiques qui avaient très bien fait aux Jeux de Pyeongchang. Il y avait Justine Dufour-Lapointe, Kim Boutin, Mélodie Daou et Samuel Girard. Et il a répondu à mes questions, à des questions du public aussi. Et c'est là que j'ai pris conscience de la force de ce gars-là. C'est vraiment une personnalité très forte, Samuel Girard. C'est un gars qui a des idées bien arrêtées, grande confiance en lui. Ça a été une de mes belles découvertes de la soirée parce que j'ai couvert les Jeux de Pyeongchang, mais j'ai pas eu l'occasion de couvrir le patin de vitesse courte piste. Alors, de prendre contact avec lui, j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que c'est un gars qui disait vraiment des choses intéressantes. Alors, arriver aujourd'hui de lire ce texte-là, ça cadre avec le personnage, ça cadre avec le gars que j'ai entendu sur la scène il y a à peu près un an et demi maintenant, qui était un gars extrêmement articulé puis qui avait une idée très claire de ce qu'il voulait faire dans la vie. Et ce qu'il fait aujourd'hui, je pense, c'est que au-delà de son cas personnel, et puis bon, là, il prend cette direction-là dans sa vie puis c'est très bien, je pense qu'il va lancer une réflexion sur le sport d'élite partout au Canada parce que le discours qu'on entend, puis avec raison, c'est que pour que les athlètes canadiens d'élite luttent avec les meilleurs sur la scène internationale, il faut qu'ils se consacrent à fond à leur activité, puis il faut qu'on leur donne toujours plus de ressources. Alors, tu sais, les coachs sont de plus en plus spécialisés. Il y a des spécialistes en biomécanique, en physiologie, des spécialistes en nutrition, des spécialistes de la psychologie sportive. Alors, tous ces gens-là encadrent nos athlètes pour aider à faire d'eux des champions. Alors, tout ça, c'est très bien. On a vu les résultats aux derniers Jeux olympiques. Le Canada est rendu une puissance en sport d'hiver, et si on n'avait pas fait tous ces efforts-là, on n'en serait pas là. Mais d'un autre côté, il y a des athlètes qui disent, coudonc, où suis-je là-dedans? Quelle est la place de la personne au-delà de l'athlète dans cet environnement-là? Et il fait aussi une distinction que j'ai trouvée très intéressante. Lui, il vient du Saguenay, puis il dit, c'est pas la même chose pour les athlètes qui sont montréalais puis qui s'entraînent à Montréal. Eux autres, ils peuvent retourner à la maison en fin de semaine, voir leurs parents, leurs amis. Nous, Non, on n'ira pas, on partira pas de Montréal pour aller à Chicoutimi pour la fin de semaine en partant le samedi matin et parvenant le dimanche soir. Ça n'a aucun bon sens. Alors, ça aussi, je pense que c'est assez interpellant pour les dirigeants sportifs québécois.
Je souhaite sincèrement que du côté de la Fédération, on soit en mesure, et d'Équipe Canada, qu'on soit en mesure peut-être de discuter avec Samuel Girard parce que j'ai l'impression qu'on l'a échappé et qu'on soit capable de discuter avec lui et lui dire, sais-tu quoi? Prends le temps que tu as besoin, mais il faut qu'on se reparle absolument. Voir ouais. si tout à coup, ta passion pour ce sport-là est revenue ou tu as toujours de l'intérêt à le faire, parce que ça serait dommage de perdre un talent comme ça pour quelque chose qu'on a peut-être mal fait un peu au courant des dernières années. Mais bref, souhaitons le mieux pour Samuel Girard.
Ouais. Ouais. Et peut-être, il se garde peut-être une petite porte ouverte aussi, là, éventuellement. On va voir comment les choses vont évoluer.
Il faut mentionner qu'il a pris sa retraite aujourd'hui avec sa conjointe également, Cassandra Bradette, qui fait du patinage de vitesse courte piste, qui elle aussi a décidé de mettre un terme à sa carrière. Maintenant, je veux qu'on parle du stade potentiel des Expos 2.0. Et là, ce qu'on apprend dans un dossier de la presse aujourd'hui, ce qu'on regarde du côté du groupe de Steven Bronfman, c'est un stade sans toit. T'en penses
oui.
quoi?
Je suis très déçu d'apprendre ça, bien sûr. Je suis pas en faveur d'un stade fermé, bien ça c'est l'évidence même. On veut jouer en plein air pendant l'été, mais je pense que ça prend un toit pour protéger des intempéries, du froid et du vent dans les nombreux matchs si on a une équipe à plein temps et non pas une équipe à garde partagée pour protéger donc les spectateurs et les joueurs du temps qui sévit maintenant au mois d'avril, au mois de mai et c'est peut-être un peu moins vrai maintenant au mois de septembre. On a souvent des automnes qui se prolongent, mais on sait très bien que le printemps, il est lent à démarrer. Et on le voit aussi à Toronto, où il y a un toit rétractable à Toronto, puis le toit demeure fermé jusque généralement là, au cours des dernières années. Ça a été jusqu'à la fin du mois de mai. Alors, pour moi, c'est clair qu'un stade avec un toit coûterait beaucoup plus cher. Alors, il y a peut-être aussi une notion économique. Si on peut sauver 150, 200 millions, je ne sais pas combien ça pourrait coûter, mais c'est sûr qu'on parle de dizaines de millions de dollars supplémentaire, il y a sûrement là un impact dans la décision et il faut le reconnaître. Mais d'un autre côté, je me demande si c'est pas une approche à courte vue. Parce que si tu joues devant des gradins dégarnis en fin mars, parce qu'on sait que les saisons commencent de plus en plus tôt, tout le mois d'avril puis une partie du mois de mai, bon, ça paraît mal pour ta concession, puis ça paraît mal, ça augmente certainement pas tes revenus. Puis tu as beau peut-être avoir une bonne quantité de billets de saison, si les gens ne viennent pas parce qu'il fait pas beau, parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, ben ça donne pas une bonne image, puis tes gradins sont vides, puis tu vends pas beaucoup de nourriture, puis de boissons, puis de produits dérivés. Alors, pour moi, l'économie à la construction, tu vas peut-être finir par la payer pas mal plus cher avec tous ces revenus que tu vas manquer pendant des années parce que tu n'auras pas de toit. Puis je pense que je regarde encore cette année, j'en ai parlé avec toi, Jérémy, j'en ai parlé avec Mario aussi. Des fois, dans des interventions à l'émission au mois d'avril, dans les derniers temps, je disais « Hey, regardez le temps qu'il fait ce soir, là. T'as 4 degrés puis il pleut, là. Les Expos contre les Giants, un petit mardi soir, là. Il y aurait combien de monde au stade du Bassin-Peel? » Alors, je pense que ce problème-là va tout à coup exploser au visage des promoteurs de l'équipe si jamais il y a équipe et si jamais il y a stade. Mais pour moi, c'est une mauvaise, tu sais, je comprends qu'ils disent, oui, on a fait des sondages. Les gens veulent un stade à ciel ouvert. C'est clair. Tout le monde, quand tu t'imagines un stade à ciel ouvert, là, tu penses pas justement à la journée où il fait 2 degrés, puis il pleut, puis il fait froid, puis tout le monde gèle. Tu penses à la belle journée du mois de juillet, c'est agréable, le ciel est illuminé, les étoiles, c'est fantastique, puis tu vas aller au baseball. Mais la réalité, c'est que ça, c'est oui, ça va exister un certain nombre de soirs, mais il y a un paquet d'autres soirs, c'est pas de même. La réalité, c'est que des fois, il pleut, puis il fait froid, puis le match [S2] Ouais. [S1] Se joue quand même. Alors, je suis pas sûr que c'est une attitude gagnante. Et d'ailleurs, tu te souviens que le père de Steven Bronfman, Charles Bronfman, a déjà dit... Dès le début des années 70 que ça prenait absolument un toit pour avoir du succès avec un club de baseball majeur à Montréal.
Ouais. Et tout récemment, il a dit, ben regarde, le baseball, c'est au Stade Jarry, c'est comme le Stade Jarry. J'ai l'impression que parfois, on a l'image négative du Stade olympique qui traîne dans les têtes, dans les têtes de tout le monde à propos de ce potentiel nouveau stade-là.
Ouais.
Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des coûts pour ça, mais il faut que tu protèges à moyen et à long terme ta franchise et t'assurer de la pérennité. Et tout récemment, justement, il y avait dans un article, on parle de c'était aux alentours entre 200 et 300 millions de dollars pour ajouter un toit, une structure. Et souviens-toi que le baseball majeur, en plus, avait conseillé au groupe de Bronfman de dire « Allez pas avec le toit, vous n'êtes pas obligé d'aller avec le toit. On va faire jouer les matchs en début de saison, on ira dans le sud des États-Unis. Ouais. » Fait que donc, en quelque part... Je suis pas sûr que c'est la meilleure des choses, mais c'est peut-être la solution la moins coûteuse. Comme
ben ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est la moins coûteuse. Mais c'est drôle parce que tu parles du Stade olympique puis du Parc Jarry. Puis bien sûr, quand Montréal a eu les Olympiques, a obtenu la présentation des Jeux olympiques de 76, ça réglait le problème pour les Expos. On s'est mis à bâtir le Stade olympique. C'était clair que les Expos allaient là à partir de la saison 77. Mais si Montréal n'avait pas obtenu les Jeux olympiques, si la ville avait perdu le vote, qu'est-ce qui serait arrivé à ce moment-là? Ben, c'est que Charles Bronfman, lui, il avait projet de faire un toit par-dessus un balcon au stade Jarry, puis de mettre des lumières en infrarouge qui auraient réchauffé les gens. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dès 1970, Charles Bronfman était bien conscient qu'il fallait un toit pour assurer la pérennité d'une équipe de baseball à Montréal. Alors là, on veut avoir une équipe, puis on dit non, ça peut marcher sans toit. Pour moi, ça va être très, 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 très
bon,
difficile.
Bon, la lumière infrarouge, on va se sentir comme une patate dans un fast-food.
Les technologies ont évolué, j'en suis convaincu.
Il va y avoir une section où tu vas pouvoir griller. La section juste à réchauffer. Quelques dollars de plus pour tes billets. OK, ouais. Philippe, hier, 105-99, victoire des Raptors de Toronto à Milwaukee. Sincèrement, c'était tout un match de regarder au complet. Quelle performance des Raptors?
C'était absolument extraordinaire, surtout avec le recul des Raptors au premier quart et même au troisième quart. Il perdait encore quoi par une dizaine de points au début du troisième quart. Alors, ça a été un retour absolument spectaculaire. Et là, ils sont à un match, une victoire de participer à la finale de la NBA. Ça serait vraiment sensationnel. Mais tu sais, ce que je vois surtout dans la performance des Raptors, c'est l'impact sur la popularité du basketball partout au Canada et bien sûr à Montréal. Tu sais, toi, tu as écouté le match hier. Moi, j'ai écouté le match d'hier au complet, dans les deux cas. Combien de gens qui nous écoutent ont écouté le match d'hier? Puis même ceux qui ne l'ont pas écouté, ils ont regardé le résultat ce matin, ils se sont informés. Est-ce que le basket avait une telle importance il y a 3-4 ans ou il y a 2 ans même? La réponse, c'est non. Alors, c'est là que tu vois que quand une équipe connaît du succès, ça vient allumer une flamme. Et cette flamme-là, les Raptors sont vraiment devenus l'équipe du Canada. Tout le monde suit leur performance et c'est vraiment un gros, gros impact sur le basket. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on est en train de développer au Canada des joueurs de basket de premier plan, au point où le Canada, Jérémy, pourrait, pour la première fois depuis les Jeux olympiques de 2000 à Sydney, pourrait se qualifier pour les Jeux d'été de Tokyo en basket masculin en 2020. Et plus que ça, il y a beaucoup d'experts internationaux qui disent que si le Canada se qualifie, puis il y a toujours un « si » parce que, bon, le tournoi est relevé, puis on ne sait pas si tous les meilleurs joueurs seront de la partie, mais si le Canada se qualifiait et allait aux Jeux olympiques et que tous les meilleurs joueurs canadiens étaient là, ça devient un pays qui a espoir de monter sur le podium. Et ça serait absolument extraordinaire et ça créerait tout un impact sur le basket. Et imagine, il n'y a pas eu d'équipe canadienne masculine aux Jeux olympiques en basket depuis 2000. Alors,
on est dû. Juste dire, les Huskies de Rwanda viennent de prendre les devants 1-0 face au Storm de Guelph. On est en première, 15-0-2 à faire. Et il nous reste à peu près une minute. Si tu dis que tu as regardé le match de la NBA, le match des Raptors, tu as assurément vu la performance de Félix Auger-Aliassime qui va passer en finale du côté du tournoi de Lyon. Encore une fois, il nous prouve que du talent jeune, c'est incroyable.
Oui, oui. Puis quelle préparation aussi pour Roland Garros. On sait combien il est bon sur terre battue, Félix Auger-Aliassime. Alors là, c'est une préparation extraordinaire, puis je pense qu'il envoie encore un message à tous ses adversaires. C'est vraiment un joueur qui est prêt, qui a déjà accompli des grandes choses cette saison et qui est prêt à en accomplir d'autres. Et de voir là, qu'il va participer à une finale, imagine tout le bien que ça fait pour son développement, de jouer des matchs très intenses, beaucoup de pression, tous les regards braqués sur lui, cour centrale. Je comprends que Lyon, c'est pas Roland Garros, mais c'est un bon tournoi quand même. Il y a des bons joueurs qui sont là. Et pour sa confiance, pour son développement, pour le message que ça envoie, c'est une semaine extraordinaire, gagne ou perd en finale demain.
Philippe Quentin, toujours un plaisir. Je te souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir été avec nous.
Salut Jérémy, merci à toi.
Voilà, c'était Philippe Quentin. On s'arrête quelques instants, on fait une courte pause. Au retour, Eric Carlson en route vers le marché des joueurs autonomes. Je vous dirais que sur Twitter, ça ressemblait un peu à ça aujourd'hui. On en parle avec Benoît Brunet.